Soyez les bienvenus, merci de votre fidélité à International, nouveau numéro qui va parler notamment, mais pas seulement, de la vie politique française. Vous vous intéressez à cette réalité, vous vous intéressez aux délices des déchirements des familles politiques, eh bien vous êtes au bon endroit. Dans moins d'un an exactement, l'élection présidentielle française sera jouée. Nous allons en parler en voyant notamment ce qui se passe dans les différentes familles politiques. À droite, par exemple, une primaire, vous le savez, aura lieu dans quelques mois, à la rentrée, à l'automne. Pour départager de nombreux candidats, plus d'une douzaine actuellement. Parmi eux, notre invité aujourd'hui, Frédéric Lefebvre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en effet candidat à cette primaire. Nous allons vous demander pourquoi, dans quelles conditions. En vous présentant, on peut rappeler que vous êtes, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons convié aujourd'hui, vous êtes député des Français établis hors de France, comme on dit, sur une immense circonscription, c'est-à-dire Canada plus USA. Alors, avec mes collègues Sophie Malibaud de RFI et Béatrice Jérôme du Monde, bien sûr, beaucoup de questions à vous poser. Peut-être tout d'abord, petit rappel à droite des forces en présence.
C'est indéniable, la primaire de la droite et du centre attire un électeur sur quatre et presque autant de politiques.
Je serai candidat à cette élection.
Je viens présenter ce projet politique.
Je suis candidate à la primaire.
Je suis candidat pour devenir le prochain président de la République.
Sans oublier Juppé, Mariton, Morano, Didier, Poisson, Millard et Lefebvre. Emprunté au Parti Socialiste, la primaire ouvre la voie à la revanche de Copé, aux poids lourds Le Maire Juppé, aux égarés Mariton, Morano. Un chef, c'est fait pour cheffer, disait Chirac. Sauf que Sarkozy est cerné par 11 candidats.
Au premier tour, tu rassembles tes amis. Au deuxième, tu rassembles ta famille. Au troisième, tu rassembles tous les Français de la droite et du centre. Et au quatrième, tu rassembles tout le monde. C'est comme ça qu'on est élu président de la République.
Mais 50 ans après De Gaulle, difficile d'imaginer un président sans parti uni, où les fidèles d'antan de Nicolas Sarkozy sont devenus des séparatistes sans proposition nouvelle.
Qu'est-ce qui vous différencie de tel ou tel autre de vos camarades des Républicains ou de la droite et du centre? Nous appartenons à la même famille, donc nous nous rejoignons sur beaucoup d'idées. Et je réponds souvent, mais regardez, nous, on n'est quand même pas pareil.
Divisé pour moins régner, il semblerait que la primaire vide le parti de sa substance idéologique, car les Français ne voteront pas en fonction de leurs convictions, mais pour le candidat qui fera gagner leur camp à la présidentielle.
C'est que le débat public, aujourd'hui, il détourne de l'essentiel, il divertit, au sens étymologique du terme, les Français.
Démocratie ou décrépitude, quoi qu'il en soit, le Front National se frotte les mains.
Alors, on vous repose la question qui était soumise à Alain Juppé. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui vous situe sur une autre proposition par rapport à ces différents candidats? Vous êtes de la même famille politique. C'est quoi la différence?
D'abord, la question est une question pertinente, puisque une primaire, à quoi ça sert? Finalement, ça ne doit pas être un concours de beauté ou ça ne doit pas être un concours de tir. Ça doit être un débat sur une vision de la stratégie pour un pays, une vision de la société.
Et vous portez quel projet différent?
Écoutez, on y reviendra peut-être, j'espère, mais moi je crois qu'il faut changer de logiciel, à la fois d'attitude politique. Depuis 3 ans, je vote les textes d'où qu'ils viennent, quand ils sont bons pour le pays. Je ne crois absolument plus au logiciel droite-gauche. Et puis, en même temps, un changement de modèle social. Je n'ai pas peur de le dire, le modèle social français, il est aujourd'hui usé dans l'incapacité d'éradiquer et la pauvreté et le chômage. Il y a un problème de répartition c'est pas pour rien que la France aujourd'hui est au bord de l'insurrection.
Vous avez dit jusque là, au bord de l'insurrection.
Au bord de l'insurrection. Et vous savez, la France gronde, ça fait 3 mois que je suis tous les jours sur le terrain. J'ai fait 70 villes. Je suis à la rencontre de ces Français. Et moi, je ne réunis pas les clubs de supporters.
Moi, je vais voir. Alliez vous dire.
Oui, enfin, bon. comme la politique, à gauche comme à droite, le fait depuis toujours. C'est-à-dire, vous savez, cette grande mode, on réunit les militants d'une famille dans une ville, et puis on va chercher en car ou en voiture ceux des villes voisines. Et du coup, on a 300-400 personnes, 500, 600, 1000, avec quelques caméras. On tape bien sur le président de la République en place. Ce que vous demandez chez soi.
Frédéric,
vous n'avez pas sûrement l'inverse. Est-ce que je pense que ça n'a pas de sens.
La situation sociale dans laquelle on se trouve, est-ce que vous regardez au-delà du mandat de Hollande pour dresser le diagnostic? Est-ce que vous revenez sur le bilan de vos années lorsque vous étiez au gouvernement avec Nicolas Sarkozy?
Mais bien sûr. Le modèle social dont je parle, il a été en permanence... allez, on va prendre 1974, c'est-à-dire un peu plus de 40 ans. 1974, pourquoi je ne le prends pas au hasard? C'est le dernier budget de la France à l'équilibre. Mmh. Regardez comment on est passé à l'époque de 400 000 chômeurs à plus de 6 millions. On est à 8 millions et demi de pauvres. On avait un taux d'endettement il y a 40 ans qui était à 20%. On est aujourd'hui à un taux d'endettement de 97%. Les prélèvements obligatoires, on était un des meilleurs élèves à l'époque de l'Europe, 35%, on est à 45%.
Mais je voudrais revenir quand même sur les années récentes. Je vous demandais la question portait sur le diagnostic par rapport aux années Sarkozy. Est-ce que vous avez le même diagnostic que les autres candidats de la droite, par exemple? Est-ce que vous avez le même regard que sur vos années au gouvernement?
Mais moi, je pense que, y compris quand nous étions au gouvernement, sur beaucoup de sujets, nous n'avons pas été assez loin dans un certain nombre de réformes. Mais je parle du modèle social. Je pense que, par exemple, la réforme que j'ai soutenue, ça avait fait débat à l'époque. Vous savez, je suis souvent considéré dans ma famille politique comme à la gauche de la famille politique. Donc ça avait peut-être un peu étonné, mais quand j'avais soutenu Martin Hirsch avec force sur la réforme du RSA...
Du revenu social, oui.
Du revenu, voilà. En réalité, qu'est-ce que j'ai pensé à l'époque, et je l'ai dit d'ailleurs, c'est qu'on n'allait pas assez loin. Et c'est pas étonnant que je défende aujourd'hui le revenu universel. Moi, je pense que notre système d'assistanat généralisé, il est à bout de souffle. Je pense qu'il faut maintenant un système de solidarité.
Alors attendez, on passe un peu vite d'un sujet à un autre. Vous nous dites sur ce point, le revenu minimum, c'est-à-dire un revenu pour tous, typiquement, c'est une mesure de gauche.
C'est une mesure de gauche, si vous voulez. C'est aussi une mesure qui est revendiquée par les libéraux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là où c'est appliqué, je serai d'ailleurs bientôt en Inde, ça a des effets absolument extraordinaires. Ça fait baisser la violence de manière incroyable. La sécurité s'améliore. Ça améliore la santé de manière là aussi incroyable. Contrairement à ce qu'on dit, ça n'éloigne pas du travail. Parce qu'en fait, la vraie différence, c'est que dans le système de l'assistanat aujourd'hui, dans un pays comme la France, les Français qui sont sous assistance, quels que soient d'ailleurs les dispositifs d'allocation, n'ont pas intérêt à reprendre un travail puisqu'ils perdent en pouvoir d'achat s'ils reprennent ce travail. C'est ça aujourd'hui qui explique la situation particulière de la France par rapport à tous les autres pays européens notamment et aux autres pays du monde. Le système de solidarité et du revenu universel, vous avez ce revenu universel sans condition qui est versé à tous de la naissance à la mort.
Mais vous avez chiffré une pareille mesure.
Attendez, et qui est cumulable avec un emploi. Ça veut dire qu'en fait, vous avez au contraire, si vous, pour chacun des Français, intérêt à travailler. Vous avez intérêt à avoir un revenu supplémentaire. Ça veut dire aussi que, parce qu'on dit souvent, oui, mais ça veut dire que les gens riches vont percevoir ce revenu universel, bien sûr. Sauf qu'ils vont, eux, le rembourser par l'impôt très vite. Et que ce qui est important, c'est que à partir de ce revenu universel, immédiatement, on rentre dans le système de l'impôt. Et donc, ça veut dire, pour répondre à votre question, une grande réforme fiscale.
Oui.
Et finalement, tout le monde est mûr pour cette grande réforme fiscale, puisque à gauche, on nous dit il faut fusionner l'impôt sur le revenu avec la CSG. C'est pas ce que je défends, mais en tout cas, tout le monde est bien conscient qu'il faut avoir une base qui soit la plus large possible pour l'impôt, parce qu'aujourd'hui, on a un taux de rendement de l'impôt qui est mauvais et une répartition qui est inégalitaire. Et à droite, vous avez le débat qui existe sur la nécessité qu'il y ait une flat tax. C'est ce que je défends, avec moi, de la proportionnalité, c'est-à-dire des paliers à l'entrée et à la sortie, pour qu'il y ait de l'équité.
Les grands candidats du parti sont tous pour la suppression de l'impôt sur la fortune. Vous les suivez là-dessus?
Mais à l'intérieur, à partir du moment où vous mettez un système avec une flat tax et deux paliers, de fait, vous supprimez l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, que vous remplacez en réalité par ce système d'impôt flat tax, c'est-à-dire un impôt forfaitaire, en réalité. Mmh. Et donc, c'est un changement de logique. Ça veut dire que vous rentrez, vous sortez en réalité du système que nous avons les uns et les autres avec des rustines en permanence gauche-droite. Je reviens sur votre question de tout à l'heure. Nous-mêmes l'avons fait quand nous étions au pouvoir pour aller vers un système qui va s'adapter aux réalités du monde. On a deux enjeux vraiment que tout le monde connaît. Le MIT, par exemple, à Cambridge, qu'est-ce qu'il dit dans son dernier rapport ? Que 50% des emplois d'aujourd'hui sont automatisables. Quand vous voyez la Google Car aujourd'hui,
la voiture Google,
qui est sans chauffeur à la télévision, moi, ça fait 2 ans et demi que je les vois circuler à Palo Alto. Quand ça va arriver dans le monde, on a vu les chauffeurs de taxi et d'Uber être comme ça, vous allez les voir comme ça contre la Google Car. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a cette révolution, cette mutation du travail.
Qui change
d'avis. Elle est devant nous. Et vous avez un deuxième sujet qui est la dépendance. Personne ne sait aujourd'hui comment faire face à la question de la dépendance. On sait bien qu'elle est là. Donc, je vous ai montré à quel point le système est à bout de souffle, mais en plus, il est incapable d'être à la hauteur de ces enjeux qui sont devant nous.
Béatrice Jérôme.
Moi, j'aimerais savoir qui on a en face de nous. Parce que vous avez été un sarkozyste de la première heure, engagé dans tous les combats de Nicolas Sarkozy. Vous êtes aujourd'hui député des Français de l'étranger. Et vous voilà face à votre ancien chef, qui lui-même essaye aussi de vous mettre des bâtons dans les roues pour la primaire, en empêchant les électeurs qui habitent, éventuels et qui habitent à l'étranger, de voter selon des procédures qui pourraient vous favoriser. Expliquez-nous pourquoi vous vous êtes engagé là-dedans, dans cette primaire. Et pourquoi vous avez un conflit avec Nicolas Sarkozy aujourd'hui ?
Non, d'abord, moi, je suis en conflit avec absolument personne. Si je me suis engagé, c'est pour les Français. C'est parce que quand je vois ce pays de loin, j'ai l'habitude de dire, ça m'a fait moquer plusieurs fois par le petit journal d'ailleurs, mais je le répète devant vous, l'éloignement est un exhausteur d'amour. Plus on est loin de la France, plus on l'aime. Plus on est loin de l'être
loin
cher,
plus on
l'aime.
Loin des yeux, près du cœur.
Et donc, du coup, quand je vois notre pays se déchirer, quand je vois, il y avait des images qui sur votre antenne où je disais le divertissement généralisé, 4 mois sur la déchéance de nationalité, avec pas du tout, comme on l'a dit, la responsabilité de François Hollande, simplement, c'est tout le monde politique. C'est nous-mêmes qui l'avons exigé que la déchéance de nationalité soit dans la révision constitutionnelle, pour tirer le tapis ensuite sous les pieds de Hollande au Sénat et empêcher que ça soit voté.
C'est vrai.
Et 4 mois. Donc vous voyez, moi je...
C'est ce qui vous a amené à vous présenter ?
Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne supporte plus cette attitude politique qui est simplement de manière artificielle de faire vivre un logiciel droite-gauche qui ne veut rien dire.
Mais du coup, vous ne craignez pas de voir votre parti se déchirer, pour le coup ?
Mais les partis politiques aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, et d'ailleurs ça n'est pas qu'en France, sont aujourd'hui traversés, c'est le cas au Parti Socialiste, c'est le cas dans ma famille politique, sont traversés par des gens qui croient à la nécessité de s'adapter à l'époque. Moi je me qualifie de progressiste. Et des gens qui au contraire sont dans la logique, il faut surtout rien changer au système. D'ailleurs,
alors pourquoi vous ne rejoignez pas le parti ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron, par exemple ?
Marchons avec Macron, par exemple.
Mais vous savez, Emmanuel Macron est
vous
un garçon
le même,
pour qui j'ai
le même
beaucoup de respect et je j'échange très souvent avec lui.
Vous êtes un Macron de droite ?
Je ne sais pas si je suis un Macron de droite ou s'il est un Lefebvre de gauche, peu importe. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que Emmanuel Macron défend, comme je le défends, la nécessité d'inventer quelque chose qui correspond à la réalité.
Oui, mais la question, c'est bien pourquoi est-ce que vous ne marchez pas ensemble, si tel est le cas, si vous êtes sincères autant l'un que l'autre.
Vous voulez que nous marchions ensemble vers de nouveaux horizons, pour reprendre nos deux think tanks. Écoutez, en tout cas, moi je n'ai
pas... Il y a de quoi s'y perdre pour l'électeur.
Mais sur la loi Macron, par exemple, je n'ai eu aucune difficulté à... Oui, mais je n'ai eu aucune difficulté à discuter avec lui. Quand vous dites qu'il y a de quoi s'y perdre, justement, il faut qu'on sorte de ça. Arrêtons de prendre les électeurs pour des crétins. C'est-à-dire qu'on considère généralement en politique qu'il faut absolument avoir les enclos, vous savez. On va mettre les moutons de droite, les moutons de gauche d'un côté. Et on ne veut pas regarder la réalité. Dernières élections régionales, 45 millions d'électeurs. Sur 45 millions d'électeurs, 8 millions votent Front National, c'est-à-dire contre la droite et la gauche. Bon. Vous avez ensuite 2 millions d'électeurs, ou pas loin, qui votent blanc, donc c'est pire, ils vont nous donner un coup de pied aux fesses en se déplaçant. Et 22 millions qui s'abstiennent. Ça veut dire que vous avez 2/3 des Français qui ne croient plus au logiciel droite-gauche aujourd'hui.
Aux formations politiques traditionnelles.
Moi, je n'ai pas la réponse à ma question. Était-elle peut-être compliquée? Mais j'aimerais savoir ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous empêcherait d'être élu éventuellement à la primaire au travers de l'interdiction du vote électronique.
Ah, pardon.
Des Français de l'étranger.
En fait, il y avait deux questions dans votre question. Ouais. C'est pour ça que j'ai répondu à la première. Je veux bien répondre à la seconde parce qu'elle est importante.
Pourquoi Sarkozy vous met-il des bâtons dans les roues?
Enfin, je ne sais pas s'il ne met que des bâtons dans les roues à Frédéric Lefebvre.
Ou
si ça dépasse ma personne, mais j'ai posé la question d'ailleurs, j'ai été invité par vos confrères d'Europe 1 et j'ai dit très nettement, est-ce que Nicolas Sarkozy veut enterrer la primaire? Et dans ce cas-là, qu'il le dise franchement. Pourquoi j'ai posé cette question?
Il veut tuer la primaire.
Non mais pourquoi j'ai posé cette question? Ouais. Et pourquoi aujourd'hui cette question du vote électronique est essentielle?
C'est-à-dire, on rappelle pour nos peut-être auditeurs ou téléspectateurs, la capacité pour les Français établis hors de France de participer à la primaire par le vote électronique et non pas par des bureaux de vote
d'abord,
qui ne sont pas possibles de mettre en place.
D'abord, la première chose, c'est que le principe de la primaire, tous les Français qui le souhaiteront pourront voter à cette primaire.
Où qu'ils soient,
et quelle que soit leur appartenance politique, même qu'ils ne soient pas membres de ma famille politique, ne leur enlève pas le droit de vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le 6 octobre, 2015, dans un comité d'organisation de la primaire, auquel j'étais invité, je n'étais pas candidat à l'époque, mais j'étais invité parce que je suis député des Français de l'étranger, que nous avions une réunion spécifique sur la question du scrutin pour les Français de l'étranger. Les représentants de Nicolas Sarkozy, qui étaient là, comme les représentants de tous les candidats, se sont mis d'accord unanimement sur le fait que, compte tenu des spécificités des Français de l'étranger, il fallait voter électroniquement. Ça, c'est la première réunion. Ensuite, il y a eu des tas de réunions auxquelles je ne participe pas, qui n'ont jamais remis en cause tout ça. La Haute Autorité a d'ailleurs bâti tout un dispositif assez complexe qui est dans le guide électoral qui a été publié le 22 avril. Il y a, sur le site de la primaire, vous savez qu'il y a un site officiel publié la charte.
Et il y a un bureau politique la semaine prochaine.
Attendez, mais il y a surtout une étape importante
finalement
qu'il ne faut pas oublier, c'est que le 14 mars, c'est pas si loin, Nicolas Sarkozy lui-même, devant les élus des Français de l'étranger, le groupe ADCI et à l'AFE, donc à l'Assemblée des Français de l'étranger, et devant les cadres du parti à l'étranger, a annoncé « vous aurez le vote électronique ». Il y a même eu un petit débat à l'époque sur...
Il n'est pas très fiable, votre ami.
Il y aura quelques difficultés dans tel et tel pays, parce qu'il faut payer 2 euros. Mais tout ça sera réglé. C'est Thierry Solaire qui est chargé de le faire.
C'est une redécouverte de score électoral.
Et donc, ça a été annoncé. Bah, d'une certaine manière, peut-être. Finalement, on se rend
d'un million de personnes potentielles.
On se rend compte qu'il y a 1 300 000 personnes, en réalité, pas loin, qui vont pouvoir voter.
Et ça peut faire la différence.
Et ça peut évidemment faire la différence. Il y a une participation forte. Et donc,
Il y a l'idée aussi que les Français établis hors de France sont peut-être moins sarkozistes que...
Mais ça, vous savez, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Aujourd'hui, moi, ce que je regarde sont des choses extrêmement concrètes, factuelles. Le président de ma famille politique l'a annoncé. Le président de ma famille politique doit tenir parole. Moi, je considère... Depuis 3 mois, je vous ai dit, je suis à la rencontre de tous ces Français qui ne croient plus à la politique. Pourquoi ne croient-ils plus à la politique? Parce qu'ils ne croient plus aux promesses. Pourquoi ne croient-ils pas aux promesses? Parce qu'elles ne sont pas tenues. Souvent, les promesses ne sont pas tenues, avec des raisons mises en avant, comme la crise, comme l'Europe. Mais là, c'est une décision d'un parti politique, prise par le président du parti politique. Donc si on ne tient pas cette promesse-là... Quel signal envoie?
Donc il veut vraiment tuer la primaire.
On envoie aux électeurs un signal qui est qu'on ne tiendra aucune promesse. On n'est même pas capable de tenir une promesse que nous-mêmes nous faisons à l'intérieur de notre famille politique. Bon. Donc il faut la tenir. Ouais. Et donc j'ai, puisque vous avez rappelé qu'il y a un bureau politique la semaine prochaine, il faut expliquer à tous ceux qui nous regardent que s'il y a ce bureau politique, c'est parce qu'un bureau politique la semaine dernière a remis en cause ce principe du vote électronique. Et l'a remis en cause au nom du principe d'égalité, parce que les Français de France ne pourraient
principe,
pas voter électroniquement.
Le faire. En principe, il va avoir lieu. Je vous propose une pause d'actualité, donc un point d'actualité sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, et on se retrouve juste après pour parler de bien d'autres sujets, notamment, tiens, on parlera d'autres républicains, l'élection américaine. A tout de suite. retour à International sur les antennes de RFI, TV5 Monde, émission réalisée en collaboration avec notre confrère Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Lefebvre, député des Français établis hors de France. Votre circonscription, on le rappelle, nord de l'Amérique, Canada et USA. Nous parlions justement de la participation pour la prochaine primaire de ce corps électoral, où peut-être plus d'un million de personnes, des Français établis hors de France. On n'y comprend plus vraiment grand-chose entre ce qu'a proposé le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, ce que vous proposez-vous. Clairement, qu'est-ce que vous préconisez pour que ce corps électoral participe au choix du candidat de droite et du centre ?
Alors, Nicolas Sarkozy, après se rendant compte de l'opposition de tous les Français de l'étranger et des élus des Français de l'étranger, a fait dans un courrier une proposition de compromis, n'écartant plus le principe
du vote
électronique, mais voulant le réserver uniquement aux pays comme le Canada, par exemple, où un parti politique n'aurait pas le droit d'organiser un vote, la Chine, et certaines zones très éloignées de centre-ville. Mm-hmm. Je considère que ce dispositif, qui d'ailleurs met à mal toute l'argumentation sur le principe d'égalité, mais que ce dispositif n'est toujours pas viable, parce qu'il écarterait encore trop de Français de l'élection. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit à l'ensemble des élus de la droite et du centre des Français de l'étranger, notamment membres du groupe ADCI, c'est-à-dire les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, ainsi que les conseillers consulaires, pour leur proposer une solution de compromis alternative qui serait le vote électronique partout. Et quand c'est possible, un vote papier, ça peut être possible à certains endroits, mais il faut, tout le monde le comprendra, que les conditions du secret soient respectées. Quand les socialistes qui avaient refusé le vote électronique pour leur primaire ont organisé, il y a eu beaucoup de contestations là-bas, parce qu'il y avait même des votes qui étaient organisés chez l'habitant, il n'y avait pas d'isoloir.
Dans des conditions
on ne peut pas organiser des votes n'importe comment.
Béatrice.
Et j'ai d'ailleurs, je termine juste là-dessus, envoyé à l'ensemble des adhérents de ma famille politique du monde entier un courrier en leur proposant de voter entre la solution de compromis que préconise Nicolas Sarkozy et la solution que je préconise. Donc le vote a été lancé hier soir. Je vois que pour le moment, ils participent en nombre. On va voir ce qu'ils choisiront.
Alors, Béatrice Jérôme, Le Monde.
Pour être éventuellement candidat à cette primaire, encore faut-il que vous ayez des parrainages. Et parmi ces parrainages, une vingtaine, je crois, de parlementaires et 250 élus nationaux ou locaux. Quel est aujourd'hui votre étiage ? Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous espérez avoir des candidats ?
Bruno Le Maire a, par exemple, déjà présenté sa liste. Vous en êtes où ?
Alors, sur cette question, il est d'abord absolument normal qu'il y ait des conditions pour pouvoir être candidat. Moi, parce que je connais ce système politique par cœur, parce que je vois à quel point les règles changent au gré des humeurs des uns et des autres, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le vote électronique, mais il y a eu avant sur les conditions de parrainage ou bien d'autres provocations auxquelles je n'ai pas répondu, comme le fait de refuser que nous puissions envoyer les courriers aux militants
ou d'empêcher
pour qu'ils puissent nous parrainer. Donc, ne m'en voulez pas, mais je vais d'abord vous rassurer en vous disant que je serai qualifié, mais je ne vais pas dire un mot sur ces questions qui, finalement, d'ailleurs, intéressent peu de gens, mais qui sont des questions qui, immédiatement, sinon, donnent lieu à des ajustements ou des adaptations des règles de la primaire. Et donc, comme je ne veux pas aujourd'hui donner la possibilité qu'on adapte quoi que ce soit, je ne...
Frédéric Lefebvre, pour paraphraser une question célèbre à l'époque, est-ce que lorsque vous rasez, même si vous ne le faites pas actuellement, vous dites « je peux être élu président de la République » ?
Mais je considère, et je le vois d'ailleurs, regardez, vous parliez des primaires américaines, que je connais bien, je les connais depuis longtemps. Je m'étais moi-même d'ailleurs engagé en 2008.
Mais
je vais vous répondre. En 2008, en faveur du président Obama. Regardez comme Bernie Sanders était à 0,5% au début. Personne n'imaginait qu'il pourrait avoir la moindre chance d'être
donc vous dites, je suis peut-être le prochain président de la République.
Regardez Donald,
Eric Lefebvre,
mais regardez Donald Trump.
Il a toujours cru.
Que les instituts de sondage refusaient de sonder. Tout le monde disait c'est une plaisanterie. Vous allez voir d'ailleurs comme autour de Donald Trump, tout le Parti républicain va se rassembler dans les mois qui viennent.
Frédéric Lefebvre a divisé ou pas ?
Et donc, pour vous répondre, je pense qu'aujourd'hui, le pays attend un changement radical de l'attitude politique. Un changement radical dans le courage à faire des réformes pour adapter le pays à l'époque et adapter le pays au monde.
Alors justement,
et donc,
pour revenir sur votre positionnement.
Et donc c'est ce que
politique.
Je défends. Oui. Ensuite, c'est aux Français, évidemment, de se prononcer.
Votre positionnement, Frédéric Lefebvre, vous êtes sur le ni droite ni gauche. Est-ce que vous ne craignez pas que cette attitude, finalement, fasse le jeu de Marine Le Pen, qui depuis un moment vous appelle UMPS ? Vous allez tout à fait dans son sens, vous lui donnez des arguments ?
C'est amusant parce qu'on me dit ça souvent. Et quand vous interrogez les Français, quand je vais à leur rencontre, c'est exactement l'inverse en réalité. Quand ce qui nourrit l'UMPS ou LRPS maintenant
oui.
C'est en réalité le fait que nos compatriotes mettent dans le même sac la droite et la gauche qui s'occupent d'elles-mêmes au lieu de s'occuper des Français. C'est-à-dire que voir, c'est pour ça aussi que passer du temps sur ces histoires de cuisine politique, ça n'a pas beaucoup de sens. Quand vous savez, moi, je me sens une responsabilité parce que depuis 3 mois, je vous l'ai dit, tous les jours, de 5h du matin à minuit, je suis en déplacement dans notre pays ou dans le monde entier, d'ailleurs, à la rencontre des Français. Et je vois à quel point aujourd'hui ces Français n'en peuvent plus. Et ces Français, ils ont bien compris que le problème, c'était que les partis politiques ne s'occupaient que d'eux-mêmes. Donc c'est ça la question. Jamais un Français que j'ai rencontré de la France du quotidien, jamais un Français ne m'a reproché de voter la même chose que quelqu'un de gauche si c'est sur quelque chose qu'il concerne. Par exemple,
oui,
je réclame
c'est pas
depuis...
Même chose. C'est pas la même chose d'avoir un positionnement en fait, entre deux et d'agir sur des mesures concrètes.
Mais justement, ce qu'attendent nos compatriotes, croyez-moi, allez à leur rencontre, vous verrez, ils n'en peuvent plus de ce système de artificiel de droite et de gauche.
Mais comment se fera l'alternance si tout le monde... on est dans un magma droite-gauche confondu, comment se fera l'alternance? C'est quand même le fondement de la démocratie.
Pardon, la question n'est pas magma droite-gauche. La question aujourd'hui dans ce pays, elle est entre les progressistes, ceux qui veulent adapter le pays à l'époque, vous en trouvez à droite comme vous en trouvez à gauche, et tous ceux qui veulent surtout pas changer le système parce qu'il est bien confortable. Parce que quand vous pouvez... Je citais tout à l'heure les chiffres d'abstention... Quand vous pouvez diriger un pays avec simplement une petite minorité, en réalité, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les élections, en mobilisant simplement les clubs de supporters, vous n'avez pas besoin d'aller voir les gens qui souffrent. Tous ces vous savez le mot que j'entends le plus, moi, sur le terrain aujourd'hui ? C'est le mot « suicide ». Quand je vais voir des éleveurs, quand je vais voir des commerçants qui, aujourd'hui, sont étranglés par le RSI, c'est pour ça que je propose la liberté d'affiliation, qui dorment dans la cave de leur commerce parce qu'ils ne peuvent plus se loger. Parce qu'ils ne veulent pas licencier le seul employé qu'ils ont dans le commerce, du coup se payent moins que l'employé, ou ne peuvent pas cotiser pour leur retraite. Cette réalité-là, je la vois tous les jours. Quand, par exemple, je suis à Toulouse et que j'ai une réunion sur le RSI, qu'on va après prendre un verre avec les commerçants, et que quelqu'un me dit « Désolé, c'était pas l'adresse qui était dans votre programme, parce qu'il se trouve que le propriétaire de l'adresse où on devait aller s'est suicidé ». Tout ça, je rencontre ça tous les jours. Croyez-moi, ils se fichent de savoir si c'est droite ou gauche. Et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire. Le général de Gaulle le disait lui-même.
Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question. Comment le système peut fonctionner ? Comment est-ce que...
Mais de manière démocratique, comme dans tous les pays du monde. Regardez,
l'alternance, elle se fera entre quoi et quoi ? Entre les conservateurs d'un côté, les progressistes.
Mais bien
vous croyez
sûr.
Qu'il y a une des parties qui se revendiquera explicitement conservatrice ?
Mais alors, soyons clairs. Tous les Français, d'ailleurs, du monde entier le savent bien. Nous sommes le seul pays où vous avez une sorte de barrière infranchissable et totalement artificielle qui s'appelle la droite et la gauche. Dans tous les pays, vous avez les progressistes, les conservateurs, les républicains, vous avez des gens, vous avez des coalitions qui se font dans la plupart des pays du monde. En France, une coalition droite-gauche. Mais regardez, c'est terrible. Moi, j'ai été un de ceux qui ont théorisé l'ouverture. Regardez comme ça nous a été reproché et regardez comme ma famille politique, comme le Parti socialiste, ont tout fait pour empêcher la réussite de l'ouverture. Et ensuite, ça c'était 2007, 2012, vous pensez que ça a plu aux Français, une campagne sur une jambe droite bodybuildée, À cloche-pied, avec une jambe gauche atrophiée. Mais nous alors, sommes ça, un pays d'équilibre.
Là où je ne vous comprends pas bien, c'est que vous vous dites, ok, droite et gauche, finalement, il n'y a pas tant de différence. Mais quand on regarde les programmes des candidats à la primaire, primaire de droite, on voit quand même que c'est nettement pas du tout les propositions qu'aujourd'hui pourrait avoir la gauche, voire même Macron. C'est quand même une course à l'échelle.
Ils font un saut de libéralisme.
Énorme vers...
Est-ce que vous regardez pas tous les programmes?
Alors j'aimerais bien...
Si vous regardez le vôtre.
Mais si vous regardez
Attendez, le clivage est très droite-gauche dans ces propositions. Alors le vôtre, effectivement, où est-ce que vous... Comment vous réconciliez les deux blocs?
Mais moi je considère, c'est pour ça que dans les propositions que je fais, je ne regarde jamais si c'est susceptible de plaire au club de supporters que je respecte. Je veux dire, pour des militants d'un parti politique, vous savez, j'ai moi-même été le porte-parole de ma famille politique et j'ai milité depuis l'âge de 16 ans. Donc je sais à quel point c'est un engagement.
Mais à l'époque, la grâce vous a touché parce qu'à l'époque, je le disais tout à l'heure, vous n'étiez vraiment pas dans la nuance. Lequel était le vrai?
Vous savez, j'avais une mission qui était une mission compliquée, qui est celle de riposter à des attaques qui étaient incessantes contre Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, je m'étais dit, si moi je suis dans l'opposition, jamais je ne me comporterai comme le Parti Socialiste le fait.
Et vous prenez la défense de Hollande, d'ailleurs.
Mais je prends la défense du président de la République. On ne traite pas, comme le fait aujourd'hui ma famille politique, le président de la République comme quelqu'un qui serait une sorte de fantoche. C'est le président de la République, il a été élu. On doit du respect au président de la République. Donc, vous voyez, moi je pense que la vie politique doit être dans l'authenticité. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans un système où la droite et la gauche, ça ne veut rien dire et tout le monde le sait. C'est ça qui est grave.
Donc le centre,
tout le monde le sait.
La droite et la gauche ne veulent rien dire, mais les mesures et la part politique de droite, ça veut dire quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'on veut supprimer les 35 heures, supprimer la fonction publique territoriale,
revenir sur le modèle social français.
Donc si vous m'invitez à deux secondes, d'ailleurs c'est intéressant puisqu'on sort d'un 49-3 avec un texte...
C'est-à-dire un vote bloqué.
La loi El Khomri.
Que la droite aurait pu voter,
en quelque sorte, le Parlement.
Mais justement, et donc, c'est bien ce que je vous dis. Donc en quoi...
Vous l'auriez voté, vous?
Mais je l'ai annoncé dès le départ. J'avais annoncé une trentaine d'amendements, avec certains amendements d'ailleurs qualifiés par les frondeurs de bons, donc qui considéraient eux comme plus à gauche que le texte du gouvernement, et puis d'autres amendements qui, au contraire, permettaient... que le dialogue social dans l'entreprise prenne réellement le pas sur tous ces accords qui sont faits au niveau national ou par branche. Et donc, en réalité, et vous venez vous-même de donner la démonstration, le gouvernement de gauche, d'accord, c'est un gouvernement de gauche, que je sache, le gouvernement de gauche, avec un président de gauche, vient de présenter un texte que vous qualifiez vous-même de droite, en disant que les gens de droite auraient pu le voter, et on s'est retrouvé dans un débat où tout le monde était dans la posture, absolument tout le monde, ou simplement
Mais ça, c'est de la tactique, c'est normal. Ça.
Mais c'est pas normal. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Les gens n'en peuvent plus de cette tactique, de ce qui est en réalité. Tout le monde a compris que sur beaucoup de points, la droite et la gauche sont en réalité en accord et attendent que, comme dans la plupart des pays du monde, il y ait des coalitions qui puissent se faire. Regardez, je vais vous décrire. La présidentielle.
Donc si la droite revient au pouvoir en 2017, elle fera la même politique que celle
qui va
faire Hollande aujourd'hui.
Si la droite revient au pouvoir en 2017, de mes voeux, j'appelle l'addition et une coalition. Donc, vous savez, c'est pas nouveau.
Une grande coalition à l'allemande,
par exemple. Quand j'étais candidat en 2012, je vous rappelle, c'était chez un de vos confrères, c'était aux Quatre Vérités. Vous pouvez le retrouver, il y a une dépêche AFP qui était tombée à l'époque. J'appelais déjà. Si la droite gagne aux élections législatives, c'était au lendemain de la victoire de François Hollande, j'appelais à une cohabitation, une coalition des gens qui veulent réformer le pays. Je citais Manuel Valls. Pourquoi ? Parce que je pense que nous ne pouvons plus continuer d'avoir un système où ce ne sont pas les Français qui ne veulent pas de réformes, ce n'est pas le pays qui bloque les réformes, c'est la droite qui bloque tout ce que fait la gauche et la gauche qui bloque tout ce que fait la droite. Donc, la France... rêve de ce système.
Mais une coalition, c'est bien un système dans lequel des éléments des deux bords s'assemblent ponctuellement. C'est qu'il faut bien qu'il y ait une gauche et qu'il y ait une droite pour qu'ils puissent se mettre ensemble.
Mais pourquoi ? Dans la plupart des pays du monde, encore une fois, il n'y a pas une gauche et une droite.
En Allemagne, les deux membres de la coalition, certains se revendiquent de gauche, certains de droite, et ils se mettent ponctuellement ensemble.
Vous savez parfaitement que c'est plus complexe que ça et qu'on est le seul pays qui considère qu'il y a cette barrière infranchissable qui est droite et gauche, que dans tous les pays du monde, il y a des coalitions avec des gens qui d'ailleurs ne s'appellent pas droite et gauche comme nous et qui sont un peu plus subtils, pardonnez-moi. Arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles.
Prenons un exemple économique.
Les Français savent parfaitement, parce que aujourd'hui, n'oublions pas que tout le monde, ou en tout cas une extrêmement grande majorité de nos compatriotes ont le bac. Les gens sont informés sur Internet. Donc, d'ailleurs, moi, ça me flatte dans les réunions que j'ai avec les Français.
Pour être concret, sur le terrain économique, on a la droite qui est quand même toujours plutôt favorable à une politique de l'offre et quand même un terreau à gauche qui est plus sur une relance. On ne va pas à gauche pouvoir défendre des idées de restrictions.
Je suis désolé de vous dire que tout ça ne correspond pas à la réalité et que d'ailleurs, c'est bien ce qui trouble les Français. Ce qui trouble les Français, c'est que vous avez des gouvernements qui se succèdent de droite et de gauche et vous écoutez les Français, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils font la même politique. C'est ça qu'ils vous disent, les Français. Béatrice. Depuis des années, ils disent que la droite fait la politique de la gauche, que la gauche fait la politique de la droite. La réalité, c'est que personne ne veut dire la vérité. La réalité, c'est que au premier tour de la présidentielle, vous allez voir, la droite va et la gauche vont dire « rien ne nous rassemble, tout nous sépare ». Et puis ensuite, parce que Marine Le Pen sera au deuxième tour, la droite et la gauche vont faire barrage.
Elle y sera
bien
pour
sûr,
vous.
Mais je le vois tous les jours. Ouais. La France qui gronde, mais elle n'en peut plus. Mais bien sûr que Marine Le Pen sera au second tour. Et vous allez voir ce que je vous dis. Le premier tour, la droite et la gauche vont dire « tout nous sépare ». Et puis au deuxième tour, ils vont faire barrage contre le Front National. Et vous allez voir le troisième tour législatif. Avec une droite, comme vous dites, et une gauche qui vont se démobiliser, voyant qu'on leur a raconté n'importe quoi à 15 jours d'intervalle. Et vous allez voir comme le Front National, qui lui va considérer qu'on lui a volé sa victoire, va se surmobiliser. Et moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Je veux qu'on dise la vérité. La vérité, c'est que Emmanuel Macron et moi, par exemple, sur beaucoup de sujets, nous sommes parfaitement en accord. Et que si on travaille ensemble, on est à même de changer le pays. De la même façon que Manuel Valls. Et je regrette que Manuel Valls, que je connais depuis très longtemps, ait été contraint, par exemple, à la veille des élections départementales, de faire un 49-3 sur la loi Macron, alors que ce texte avait la majorité. Simplement, le Parti Socialiste ne voulait pas que ce texte soit adopté avec une majorité de droite.
Béatrice Jérôme.
Face au Front National, si on vous comprend bien, que ce soit pour la présidentielle ou les législatives, il faut que la droite et la gauche se retrouvent à un moment donné. Sinon,
Écoutez, il faut qu'on soit dans la vérité. Quand je suis, par exemple, il y a quelques semaines...
Pour gagner ces deux échéances électorales...
Je vais vous donner un exemple très concret.
Est-ce que Nicolas Sarkozy est celui qui est le mieux placé dans cette perspective-là aujourd'hui? Il n'est pas forcément le plus libéral aujourd'hui. Il est un peu moins excessif que les autres.
Je pense que le mieux placé aujourd'hui, c'est moi, sur cette stratégie, pour une bonne et simple raison, c'est que j'y crois. C'est que ce que je vous dis, ce sont pas simplement des mots, ce sont des actes.
C'est le Sarkozy de 2007 ou jusqu'en 2008-2009
Mais en 2007, j'ai contribué à cette stratégie de l'ouverture, parce que je pense que c'est bon pour le pays. J'étais il y a quelques semaines avec Xavier Bertrand, à Lille, dans son bureau.
Ouais. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, du nord de la France.
C'était parfois poser des questions sur un certain nombre de mes votes pendant quelques années. Nous avons partagé la campagne qu'il a faite aux élections régionales. Lui a fait mesurer tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Ouais. À quel point les Français ne s'en foutent de ce truc droite-gauche qui ne veut rien dire. Et à quel point ils attendent qu'on s'additionne et qu'on prenne des décisions parce que le pays est dans l'urgence. Et donc aujourd'hui, je pense que le moment est venu, parce que c'est l'élection présidentielle, de tenir ce discours de vérité. Mmh. Et vous savez, ce que je dis, tous les Français qui sont à l'étranger, que je rencontre dans mes déplacements, ils me disent tous, mais vous avez raison. On voit, nous, dans les pays dans lesquels nous sommes, comme le côté ringard de la politique française. Mmh. Ils s'accrochent à ce logiciel droite-gauche, simplement parce que c'est une question de survie pour lui. Mmh. Parce que les partis politiques comprennent bien qu'aujourd'hui, ils sont en voie de disparaître tels qu'ils sont organisés aujourd'hui. Et s'accroche à ça.
Est-ce que vous voulez dire que dans la pratique du pouvoir, la France doit être gouvernée au centre? Est-ce que vous avez l'impression que ce type de discours serait audible alors que les gens sont prêts à aller aux extrêmes dans toute l'Europe d'ailleurs?
Mais je ne dis pas du tout que la France doit être gouvernée au centre ou que...
S'il y a des mesures de gauche qui sont bonnes, des mesures de droite qui sont bonnes, ça ressemble un peu à ça.
Mais alors permettez-moi de vous dire qu'il y a une grande différence entre gouverner la France au centre et faire des coalitions qui veulent dire additionner des différences. Moi, je ne demande pas que si on s'additionne dans un gouvernement comme exactement d'ailleurs ça peut se faire en Allemagne, chacun gomme ses différences.
Vous
ça se fait avec des accords de gouvernement, ça se fait avec des gens qui vont de manière sincère être en charge de politiques dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Ça veut dire donc, simplement...
Vous seriez entré, vous, dans un gouvernement de François Hollande ?
Mais encore une fois, vous voyez bien que cette question, elle ne veut pas dire grand-chose telle que la politique est construite aujourd'hui. Bon. Ce qui, aujourd'hui, je vous ai dit que moi-même, en 2012, j'ai dit... C'était, faut vous rappeler qu'à l'époque, que ce soit Jean-François Copé, que ce soit François Fillon, que ce soit toutes les voix, Alain Juppé lui-même d'ailleurs, personne ne voulait de la cohabitation.
C'est vrai.
Moi, au contraire, je la défendais. Pourquoi ? Parce que je pensais qu'il fallait additionner l'aspiration au changement qui s'était tournée vers François Hollande, et il fallait en prendre acte avec notre expérience de la gouvernance de la crise. Et si on avait additionné ça dans un gouvernement... Mais évidemment qu'on aurait répondu. Une des plus grandes erreurs, des plus grandes fautes qui ont été faites sous la Ve République, je le dis avec tout le respect que j'ai pour Jacques Chirac, c'est quand il a eu à affronter au deuxième tour Jean-Marie Le Pen, qu'il a fait ce score qui lui donnait le devoir d'additionner dans un gouvernement, et qu'il ne l'a pas fait. Je vous ai cité tout à l'heure le 49-3 sur la loi Macron. Là aussi, c'est une faute. Eh bien, je pense que dans ce pays, on a perdu trop de temps à continuer de manière artificielle à faire de la politique. Et je vais prendre ce jeu auquel beaucoup de jeunes jouent aujourd'hui, qui est connu dans le monde entier, qui s'appelle Vikings War of Clans. Vous savez, c'est un jeu où vous montez votre royaume, puis après vous faites la guerre. La politique, aujourd'hui, dans notre pays, c'est ça. Et quel est le résultat de ce jeu ? Vous y jouez des heures. Vous ne voyez plus ce qu'il y a autour de vous. Vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous. Or, aujourd'hui, le monde politique, à droite comme à gauche, malheureusement, je le vois tous les jours, ne voit plus ce qu'il y a autour de lui. Quand je vous ai parlé de suicide de France qui gronde, pendant ce temps-là, on a des débats surréalistes, des postures, du théâtre d'ombre sur le 49-3.
Nous parlons depuis le début de cette émission de la vie politique française. Cette émission s'appelle Internationale. On regarde, on élargit. Vous connaissez bien les États-Unis. Vous représentez les Français établis là-bas. Une partie de votre famille s'y trouve. Trump peut être élu. Donald Trump peut être élu.
Bien sûr. Ceux qui pensent, les mêmes d'ailleurs, qui pensaient que Donald Trump ne pourrait même pas être candidat, ouais, qui ne voulait pas qu'il soit sondé. Tous ces grands éditorialistes, ou même dans sa propre famille politique, qui considéraient qu'il ne pourrait pas, être choisi. Ouais. Il y a eu des oppositions assez fortes, que ce soit Mitt Romney, que ce soit John McCain, à l'intérieur même des Républicains.
Ils se rallieront tous.
Mais tout le monde va se rallier.
Est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit élu ?
Connaître le... Mais ça, c'est autre chose. Bah
qu'est-ce qui se passe s'il est élu ?
Qu'est-ce qui se passe s'il est élu ?
Je vais essayer de répondre à vos questions.
Bah oui.
Il y en a...
On arrive au terme de l'émission.
Vous avez de multiples questions. Je vais essayer de vous dire une ou deux petites choses. D'abord, ce qui va être très important de regarder, c'est la capacité, et le choix des vice-présidents est toujours très important dans la démocratie américaine. La capacité de Donald Trump d'ouvrir dans le choix du vice-président, de la même façon que le choix par Hillary Clinton du vice-président va être très important. Moi, je pense que, par exemple, on va regarder, mais
est-ce qu'il est Marco un danger,
Rubio...
Est-ce qu'il est un danger pour l'Amérique, Donald Trump, sans aller dans toute la complexité ? Est-ce qu'il est un danger pour l'Amérique
et pour le Donald Trump que tout le monde a vu battleur pendant sa campagne, mais évidemment. Mais le vrai sujet de la politique aux États-Unis comme ailleurs, c'est quel va être le Donald Trump à la fin de la campagne ? Quel vice-président va-t-il choisir ? Pardon ?
Vous pensez que le risque est qu'on peut prendre ce type de risque ?
On peut prendre. C'est ni vous ni moi qui allons choisir. C'est les Américains qui vont choisir. La force de Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'il fait revenir dans le jeu démocratique beaucoup d'Américains qui ne voulaient même plus voter.
Bernie Sanders, au prix d'un populisme extraordinaire.
Mais attendez, je ne suis pas en train de vous dire.
Et de propos xénophobes.
Moi, vous savez, je soutenais le président Obama en 2008. Et tout le monde sait que...
Si je suis
qualifié d'être plutôt à la gauche de la droite, c'est pas pour être au Tea Party chez les Républicains.
Vous soutenez ou pas Trump ?
Bien sûr que non.
Parfait. On a une réponse. Nous sommes à la fin de cette émission, Frédéric Lefebvre. Nous sommes ensemble depuis près d'une heure. Merci de nous avoir indiqué votre différence par rapport aux 12, je ne sais pas, ou peut-être plus, candidats pour cette primaire de la droite et de nous avoir éclairé sur cette élection américaine de novembre. Merci d'avoir été sur le plateau international avec RFI, TV5 Monde et le quotidien Le Monde. Excellente suite de vos programmes.
of what to do. Get it all over you. Oh, know how to fight, only you tell me why. Tell me who. Tell me you don't know what to do. Get it all over you. Oh, know how to fight, only you tell me.
Chaque vendredi, la rédaction internet de RFI vous propose un autre regard sur l'actualité avec des analyses, des reportages, des chroniques littéraires et des portraits. Découvrez aussi une sélection des meilleures interventions de nos journalistes dans Appel sur l'actualité et toutes les émissions hebdomadaires de RFI.
L'hebdo, c'est à retrouver chaque vendredi à partir de 15h TU sur RFI.fr ou en cliquant sur l'onglet « Boîte aux lettres » pour vous abonner à la newsletter.
Appelez-nous, exprimez-vous.